Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps. Animée par Nicolas Boissineau tous les troisièmes jeudis du mois, entre midi et 13h sur Prune 92 FM.
Nantes tire son nom des Namnètes, peuple celte qui fonde la ville au IIe siècle. À partir de cette époque, se succèdent durant des siècles des générations et des générations de Nantais qui vivent et caractérisent l'histoire de la ville. Une histoire riche. De sa prise par les Francs de Clovis en 490, aux assauts des Bretons, puis des Vikings, ainsi que les manœuvres de l'Anjou. Au niveau régional, Nantes dispute à Rennes le titre de capitale de la Bretagne pendant le Moyen-Âge, puis prend son essor sous la Renaissance. Au XVe siècle, la duchesse Anne de Bretagne, le personnage historique de la ville, parvient à garder l'autonomie de la Bretagne face au roi de France. Le meilleur témoin de cette époque reste le château des Ducs. Au début du XVIIIe, Nantes est le premier port d'Europe et développe le commerce triangulaire. Les armateurs vont considérablement transformer l'aspect de la ville en érigeant des hôtels particuliers, encore visibles aujourd'hui, notamment sur l'île Feydeau. Urbanisme qui est aussi le témoin du passé industriel de la ville. À partir du XIXe siècle, les chantiers navals bordent la Loire. Et des industries, BN, LU, bien connues des Nantais. Enfin, Nantes bombardée, Nantes détruite en 43, puis Nantes reconstruite. La rue du Calvaire est la meilleure empreinte de ces grands travaux. 20 siècles d'histoire. Il serait réducteur d'évoquer en quelques phrases. Comment portons-nous cette histoire? En sommes-nous conscients? Comme le disait Jostein Gardner, nous ne vivons pas seulement notre époque, nous portons toute notre histoire avec nous. Bonjour et bienvenue dans Moments d'Histoire, l'émission de Prune consacrée à l'histoire locale. Nous recevons Anne Groisard, chargée de production pour la compagnie du théâtre de l'Entracte et de la Ruche à Nantes. Elle vient nous présenter le concours d'écriture qu'ils ont lancé en partenariat avec la librairie du Rance courant 2020. C'est aussi l'occasion de revenir sur son parcours, sur sa vision de la situation culturelle actuelle et en toute fin d'émission d'évoquer son mémoire de recherche sur l'histoire de la politique culturelle du Québec. J'en dis pas plus. Tout de suite, entretien avec Anne Groisard. Bonjour Anne Groisard.
Bonjour.
Est-ce que vous allez bien?
Très bien.
Donc merci d'avoir répondu à notre invitation.
Avec plaisir. C'est donc, toujours un grand plaisir de participer à une émission de radio.
Et il me semble que vous avez déjà fait de la radio à Nantes.
Eh oui, à Sun, exactement.
Nos confrères qui sont juste à côté de nous.
Eh oui.
Donc vous êtes actuellement chargé de production pour la compagnie de la Ruche à Nantes.
Alors, plus exactement, c'est le Théâtre de l'Entracte, qui est une compagnie de théâtre, et aussi pour le Théâtre La Ruche, qui est, lui, le lieu physique théâtral. Nous accueillons différentes compagnies.
D'accord. Et on peut dire qu'avant ça, vous êtes une travailleuse culturelle avec de multiples facettes. Après avoir fait des études d'histoire à l'Université de Nantes et un mémoire au Québec. En lien avec l'Université de Montréal, vous vous lancez dans le secteur culturel. Quel a été votre parcours ?
Ah, un parcours. Alors, quand on vient de l'Île-Dieu, cette petite île en Vendée, c'est pas évident d'être dans la culture. Enfin, il y a en tout cas 30 ans. Mais moi, j'ai essayé de me mettre dans tous les interstices où il y avait de la culture. La bibliothèque municipale, à partir de 13 ans. Enfin, pas municipale, plutôt bibliothèque paroissiale, parce qu'il n'y avait pas encore de bibliothèque municipale. Elle arrive enfin. J'ai participé à des festivals. Festival qui s'appelle les Bernicofolies, que certains connaissent peut-être de nom, qui, à la base, est un festival de contes. Et c'est assez celui-ci que je participais. Donc voilà, j'ai créé aussi une association avec des copains autour de la musique, de la danse. Tout ça m'a mené vraiment à aimer la culture, à vouloir en travailler.
Mais vous êtes aussi une auteure engagée. En 2013, tu publies Migrante, un livre portant la thématique de la migration féminine mondiale, où tu recueilles 34 témoignages de femmes de 28 nationalités différentes. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, Migrante, ça, c'est pas d'abord un projet de personnes engagées, c'est simplement de personnes que j'étais, migrante moi-même à l'époque. Ça faisait à peu près 5 ans déjà que j'avais quitté la France. Et j'ai fait aller-retour, j'ai vécu en Espagne, aux États-Unis, au Costa Rica, dans plusieurs pays. Et à un moment de cette migration, j'étais un petit peu en rupture, je ne sais pas quoi faire, je voulais repartir. Et là, une amie m'a dit, mais part avec un projet. De là, bon, je vais pas tout raconter, mais est née l'idée de faire un livre sur des femmes. Un livre qui était beaucoup plus ambitieux au départ parce que je voulais parler de la condition des femmes au Costa Rica, au Nicaragua et au Guatemala. Donc c'était un immense travail. Une fois arrivée au Costa Rica, j'ai eu la chance de tomber tout de suite dans des milieux universitaires qui m'ont fait comprendre que mon projet était titanesque. Et effectivement, il était beaucoup trop gros pour mes petites épaules. Et j'ai réfléchi de nouveau et je me suis dit, moi, ça fait plus de 5 ans que je suis migrante, que je vis à l'étranger, que j'ai quitté la France délibérément, parce qu'il y a deux sortes de migrations, hein, celle que l'on choisit et celle que l'on nous force à faire. Et je dis, pourquoi d'autres femmes partent ? Et de là est née cette idée de livre, de recueil de témoignages de femmes migrantes qui venaient de tous les pays du monde.
Et ce projet se décline aussi en exposition, jeu et animation auprès des jeunes ?
Oui, parce que c'est très amusant. Au départ, c'était vraiment un projet personnel, écrire un livre sur des femmes. Et puis finalement, des femmes migrantes. Et je me suis prise au jeu, je suis rentrée en France avec tous ces témoignages, avec l'idée donc, d'éditer, de publier ce livre. Et j'ai une chance extraordinaire, j'ai trouvé un éditeur tout de suite qui a bien voulu me suivre dans le projet. Donc c'est les éditions Corlay en Normandie. Et puis je me suis dit, c'est bien, mais est-ce que les gens vont vraiment être touchés par mon bouquin ? Parce que cet éditeur me disait, moi je suis un petit éditeur, je vous suis, mais je ne pourrai pas diffuser votre livre, donc à vous de le faire. Et là, je me suis demandé quelles étaient les possibilités de diffuser ce livre. Et est née l'idée de l'exposition, d'abord. Puis finalement, l'idée des animations, pour vraiment aller toucher les gens au plus proche d'eux. Et voilà, tout cet attirail a commencé à se mettre petit à petit en place autour du livre.
Et donc, en mars 2020, c'est sous un autre projet que tu t'illustres, tu lances un concours d'écriture avec la librairie Durance. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors là, on fait un gros bond en avant parce qu'entre-temps, je mets à travailler pour le Théâtre La Ruche, Théâtre de l'Entracte, hein, et je deviens chargée de production de ce lieu, de la compagnie avant tout. Hein. Et puis, ce lieu est porteur de nombreux projets socioculturels, projets culturels. On va vraiment essayer d'aller au maximum en devant des gens, devant des spectateurs. Et la ligne rouge du théâtre, c'est la littérature, la rencontre avec les auteurs, la lecture, partir dans l'imaginaire. Et du coup est venue cette idée de concours d'écriture et qu'on a lancé en fait avec la librairie Durance, avec qui on a l'habitude de travailler à La Ruche. On a conçu ce projet ensemble et il devait être lancé au mois de mars, mais il n'était pas du tout à la base fait pour le confinement finalement.
Ce que je pensais avant l'émission.
Oui, et finalement, tout le monde effectivement a cru, parce qu'on a une belle couverture médiatique sur ce concours d'écriture dès le début du confinement. Or, tous les flyers étaient prêts à distribuer dans la ville de Nantes pour demander aux gens de participer à ce concours d'écriture. Et il a fallu, on s'est dit, on ne va pas l'arrêter. D'autant plus que les gens sont chez eux, ils ont du temps, ils ont plus de temps. Donc, lançons l'information donc par les médias et par notre site internet pour que les Nantais et tous les gens de la métropole participent. Même plus, hein, parce qu'on a même eu des gens qui n'étaient pas du tout de la métropole nantaise qui ont participé. Donc voilà comment est né ce concours d'écriture et comment il s'est transformé en concours de confinement.
Tout au long de cette émission, notre entretien sera entremêlé par la lecture de quelques textes. Je remercie Lucille et Florent qui se sont prêtés au jeu. Je vous propose d'écouter le premier.
Entre Bretagne et Poitou, il y a Nantes, de Véronique Rouleau. Entre Bretagne et Poitou, il y a Nantes, l'ancienne capitale du duché de Bretagne. L'ancien port négrier à la sombre notoriété. L'ancienne ville ouvrière, rebelle et riche d'un savoir-faire industriel. Mais c'est aussi ma ville d'adoption, celle que j'ai choisie pour poser mes valises après quelques pérégrinations toutes aussi inutiles que stériles. Nantes s'arpente dans le petit matin, au moment où les rues sont fluides et le fleuve irisé par les rayons du soleil naissant. Le navibus monte mou à la butte Sainte-Anne et le maillet brusé m'apparaît dans le lointain, placide, illuminé par de timides et frileux rayons solaires. La coupole de l'église Notre-Dame du Bon-Port hier et le murmure de la circulation se mêlent au bruit du fleuve. Sur ma droite, le quai des Antilles et les anneaux de la mémoire me saluent du silence fatigué, mais apaisé, qui suit les nuits agitées. Nantes se vit dans le crépuscule, au moment où les terrasses bruissent de mille conversations et où les verres s'entrechoquent. Dans le bouffet, les tables brinquent-balles sur les pavés disjoints et les pintes s'agitent dangereusement. Bière bretonne et galette de la crêperie jaune m'accaparent un temps, et le métissage des goûts et des odeurs apportés par le fleuve se rappelle rapidement à mes papilles. La nuit pose doucement son manteau sur la ville, qui se pare alors d'étonnantes couleurs. La musique s'écoule, des cafés et des théâtres. La rue se peuple d'étranges ballets, gîtes et se meuvent au rythme des fêtes adolescentes. Nantes se découvre chaque jour de l'année. Elle se parcourt à pied, en vélo, en bus ou en tramway. Elle se donne à voir, à qui sait regarder. Des petites ruelles improbables et mystérieuses aux boulevards extérieurs, la ville s'étend, se déroule et s'enroule autour de son fleuve majestueux et onirique. Serpent aux couleurs mélangées, de l'ocre de la glaise au vert de ses berges, je musarde le long de ses flancs. J'en respire l'humidité douceâtre et je me perds dans les roselières de l'aval. Au creux de la ville s'ouvrent çà et là de drôles de jardins. Cachés ou publics, chatoyants ou ternes, plaisir des yeux ou plaisir du ventre, îlots de verdure ou havre de paix, ils accueillent l'esprit espiègle de mon enfance oubliée et invitent d'étonnants monstres indociles et inoffensifs. Rencontres insolites ou imaginaires, rêves insensés et improbables, les jardins envahissent pacifiquement les rues et dérangent mes habitudes et mon confort, m'obligeant à quelques détours et flâneries sur le chemin de mes occupations sérieuses. Dans les faubourgs excentrés et moins connus, la ville se colore et se métisse. Les petites maisons de briques rouges se blottissent au pied des géants de béton. Ici, les jardins se partagent et de surprenantes lianes s'entortillent sur le grillage. D'une parcelle à l'autre, l'entraide sillonne, les graines s'échangent et les tables se couvrent de ragoûts fumants et exotiques. Au détour d'une allée, des histoires se racontent, celles d'un autre temps, celles d'une autre vie, celles d'espoir déçu et d'amour impossible. Et voici que des voix anonymes me racontent leur ville. Elles me chuchotent au creux de l'oreille, dans un incessant et tranquille mouvement entre hier et aujourd'hui, tout ce qui a bâti la ville et tout ce qui la conforte et la protège de la folie des humains. Elles me disent les blessures et les peurs. Elles me rapportent l'excitation des jours de marché et le bruissement du port. Elles pleurent avec les esclaves entravés et crient la colère des ouvriers. Elles chantent les marins disparus et s'enivrent aux musiques endiablées du carnaval.
Nous sommes de retour dans Moments d'Histoire après une lecture d'Entre Bretagne et Poitou, il y a Nantes, de Véronique Groslot. Ce récit est issu du concours d'écriture lancé par le Théâtre de la Ruche et la librairie Durance. Pour nous en parler, nous recevons Anne Groisard.
Moment d'histoire.
Et l'orientation de ce concours est intéressante. Je trouve que l'histoire ne doit pas se résumer à un récit politique, de fait, de bataille ou de personnalité. L'histoire, c'est aussi la vision des protagonistes, de l'époque, de notre vision, comment on vit notre époque, quel regard nous avons sur le passé, comment les Nantais voient-ils leur ville ?
C'est ça, on a vraiment, on est parti. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant ce projet d'écriture, de ce concours d'écriture, vient un projet qui s'appelle, alors qui rejoint la radio, qui s'appelle Empreinte de ville. Ce projet est porté par la Ruche depuis 2018 et invite 60 ans à raconter leur ville, à raconter Nantes. Et pour nous, on s'adressait donc à ce public de plus de 60 ans, a priori plus des personnes en perte d'autonomie. C'est un projet qui était financé par la conférence des financeurs de la perte d'autonomie. Titre très long, mais c'est un organisme rattaché au département de Loire-Atlantique. Et donc, on s'était dit comment les gens peuvent raconter Nantes. Plutôt que d'être restrictif, nous avons préféré ouvrir les champs et dire... Partez de la façon par laquelle vous voulez pour parler de la ville de Nantes. Si vous êtes jeune, retraité ou jeune personne qui est arrivée récemment à Nantes, vous ne pourrez pas nous parler de l'histoire, à moins d'être vraiment féru de l'histoire de Nantes. Mais parlez-nous d'un moment T quand vous êtes dans la ville. Voilà, donc on leur a laissé toutes les portes ouvertes et c'est à eux de s'exprimer sur la ville de Nantes.
Et donc oui, parler d'un moment T, mais c'est un peu s'approprier la ville. Comment on s'approprie la ville de Nantes ?
Eh bien oui, mais c'est ça qui est intéressant. Je ne peux pas tout raconter parce que j'aurais 36 000 anecdotes sur cette façon de s'approprier la ville de Nantes. On a eu des récits très personnels, automatiquement. Souvent, quand on écrit, c'est lié à notre vie et à ce qu'on vit au quotidien ou pour les personnes plus âgées sur un long terme. Pour d'autres, ils ont raconté sous l'imaginaire. Hein. Ils ont réinventé la ville de Nantes. C'était très rigolo aussi. Il y a un serpent, par exemple, qui se balade et qui fait appel à beaucoup de références des auteurs, des artistes qui sont passés par Nantes. D'autres ont raconté juste un événement qui a retenu leur attention sur la ville de Nantes. Il y a eu vraiment une tonne de... Il y en a d'autres qui ont fait parler des mascarons de Kervégan. Voilà, donc on a eu 36 000 façons de raconter Nantes.
Mais c'est d'ailleurs la lauréate du concours.
Oui.
Mais sinon, il y a une soixantaine de personnes qui ont participé, des récits de qualité. Mais... Il me semble que le projet initial, c'était de les mettre en scène au Festival littéraire de la Ruche.
Tout à fait. C'est le Festival littéraire Dernière Récolte qui devrait avoir sa sixième édition cette année. Déjà, la cinquième n'a pas pu se faire. Donc, effectivement, l'objectif de tous ces textes, c'était qu'on puisse en faire une mise en scène, une lecture théâtralisée, hein, pas les mettre en scène en tant qu'avec des comédiens, mais... que des comédiens professionnels les lisent, les mettent en scène, enfin dans une lecture théâtralisée, j'espère que je me fais bien comprendre. Mais ça n'a pas pu avoir lieu. Donc c'était une déception quand même pour nous de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout du projet. On s'est cependant récupéré un petit peu, rattrapé un petit peu au mois de septembre, parce que autant ce concours d'écriture, le festival Dernière Récolte, mais également nous avons des élèves en cours de théâtre à la Ruche pendant l'année, et ces élèves normalement présentent leurs travaux de fin d'année au mois de juin. Donc là aussi, ils n'ont pas pu présenter quoi que ce soit au mois de juin. Donc on a tout reporté au mois de septembre, fin septembre. On a investi la cour de l'Accord, du centre Accord Martray, donc qui est juste dans le quartier. Ça s'est fait à l'extérieur et là, quelques élèves ont lu quelques textes qu'ils ont choisis eux-mêmes. Hein. On leur a donné tous les textes qui nous avaient été envoyés. On n'a pas dit faut lire les finalistes. C'était pas ça.
C'est
prenez les textes qui vous inspirent le plus et lisez-les en public. Voilà. Donc on a fait quand même un petit peu de lecture théâtralisée de quelques textes, même si c'est pas autant que ce qu'on voulait faire.
Je vous propose une nouvelle lecture.
Dedans, dehors. Thérèse André Abdelaziz. Confiné des jardins interdits. Debout. Île de Versailles. La parole est à vous. Qui entre chez moi, entre dans un conte. Il était une fois, une île. Née en 1831, d'un marécage et des aménagements du canal de Nantes à Brest. Marais de Barbin, l'île Le Gall, l'île aux singes. Il était une fois des tanneries, blanchisseries, menuiseries que j'ai accueillies avec leur famille. Des ateliers de construction de bateaux aussi, jusqu'à la fin du 19e siècle. En 1881, j'abritais encore sculpteurs, sabotiers, blanchisseuses et bateaux-lavoirs, loueuses de canaux, charpentiers, vendeurs et artisans de toutes sortes, dans des maisons en bois et en dur. En 1957, 38 foyers, tourneurs sur métaux, peintres en bâtiment, poissonniers, mécaniciens, et la fameuse Mémé Cacahuète, qui habitait dans un vieux tramway. Et puis, en 1986, il est une fois l'île de Versailles. Ma énième vie dans l'esprit d'un jardin japonais, calme petit paradis dédié à la nature. Tel un vaisseau verdoyant et immobile, je m'étire sur l'herbe entre le pont de la Motte Rouge et le pont Saint-Mihiel, Erdre citadine. Erdre, dis-nous, que se passe-t-il sur tes rives ? Je lisse mes écailles sous les ciels changeants de la ville. Que scintille la pluie ou me trousse le vent ? Que me cajole le soleil ou me rêve la lune ? Que sont les amoureux de mes rives devenus ? Ils les ont désertées. Les mouettes ne ricanent plus, qui escortent d'habitude les bateaux électriques et les canoës du ruban vert, aujourd'hui à l'arrêt. Le héron cendré, ou génie du lieu, ne pêche ni ne déambule sur les quais. Où est-il ? Il ne joue plus à cache-cache et ne tient plus conciliabule avec les colverts qui s'en sont allés place Gralin. Confiné de l'île de Versailles, debout. Qu'est-ce qu'il se dit entre la passerelle escalier du quai Barbus, la passerelle à auban du quai de Versailles et le vieux pont de pierre qui vous relie à la terre ferme ? Racontez-nous. Il est une fois le cœur de l'île. Moi, la maison de l'Erdre, inspirée du pavillon de thé japonais, avec son patio, son jardin zen, ses nénuphars, ses rocailles et cascades, ses pierres de gué, ses montagnes miniatures, ses petits ponts si agréables. Les principales espèces de poissons de l'Erdre peuplent mes aquariums. Batellerie, lavoir, le passé fluvial de la ville revit grâce à mes expositions. Très riche, en effet. Mais encore, il est une fois, moi, la capitainerie. Structure nippone oblige. Mon nom claque. Y sont les voiles ! Sous l'œil du maître de port, je dirige la gestion de ceux de Nantes Métropole et veille à l'entretien de leurs équipements. C'est un rôle dont je suis fier. Il est une fois les confinés exotiques. Promeneurs, nous t'invitons au voyage. Une aventure colorée et parfumée, hors du temps. Imagine, une évasion dans des tableaux paysagers qui se renouvellent au fil de tes pas et des saisons. Plans d'eau minuscules, massifs de bambou, séquoias, érables, saules et ces pins sylvestres taillés en arbres nuages. Un rêve d'enfant. Que dire des cyprès chauves et du niwaki, cet arbre qui ressemble à un énorme bonsaï, et ses rhododendrons, azalées, merisiers, camélias et cerisiers du Japon, dont la floraison annonce le printemps, le renouveau. Île de Versailles, Erdre, quelque chose à ajouter ? Moi, île de Versailles, j'aime cette vie artisanale et ouvrière d'où je suis issu. C'est une partie de mon âme. Avec ses quais sauvages et sa végétation d'alors, avec ses clameurs, elle m'a nourri et bruit encore en moi la nuit. Ses pulsations sont miennes, je les écoute. Moi, Erdre, j'ai hâte de revoir mes quais très animés des beaux jours, navigation et sport nautique. Hâte de retrouver, fin août, les embarcations et festivaliers des rendez-vous de l'Erdre, jazz et belle plaisance qui colonisent mes berges. Le cœur promeneur, amoureux de l'île de Versailles, nous sommes là, à la fois dehors et dedans. Mais toi, tu es dans ton dedans et le dehors t'appelle. Promeneur, nous t'attendons.
c'était « Dedans, dehors » de Thérèse André Abdelaziz. Nous sommes de retour dans Moments d'Histoire. C'est le moment de revenir un peu sur le théâtre de l'Entracte et de la Ruche. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus amplement cette structure ?
Le théâtre de l'Entracte, à l'origine, est une compagnie de théâtre qui a été créée par Henri Mariel, donc qui est toujours directeur de cette compagnie. À la base, c'était même une compagnie amateur qui était au service de personnes atteintes de maladies mentales, handicapés mentaux. Et c'était un exutoire, comment soigner ces personnes mentalement malades par le théâtre. Donc c'était les personnels soignants et les gens qui étaient soignés. Et puis finalement, ça c'était en 89. En 93, Henri Mariel a arrêté la psychiatrie et a gardé cette compagnie et l'a transformée en compagnie professionnelle. Donc de 93 à 2013, 30 ans, je me trompe un peu dans les dates, mais c'est pas grave. Enfin, pendant au moins 25 ans, Henri Mariel a créé des spectacles qu'il a tournés dans la France entière. Et puis en 2012, il a senti un petit peu le vent tourner en termes de diffusion de spectacles en France. Et il s'est dit, moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir des théâtres pour créer mes spectacles. À une moindre échelle, parce qu'il était à l'Onyx, hein, donc gros plateau, mais à moindre échelle, j'aimerais aider des jeunes compagnies, ou en tout cas des jeunes spectacles, à pouvoir se montrer aux programmateurs et au public. Et donc, il a ouvert cette salle qui s'appelle La Ruche, en 2013 exactement. 2012 pour les cours de théâtre et 2013 pour la programmation.
Et vous assurez aussi la relève avec les petites abeilles ?
Eh bien oui, on en enseigne le théâtre à partir de voir les élèves. D'ailleurs, j'ai appris récemment qu'une de nos élèves qui a vraiment commencé à La Ruche, qui a fait toute de son enfance, elle a commencé en 2012 à 2020, elle était chez nous, donc 7 ans d'enseignement de théâtre à La Ruche. Et maintenant, elle est au cours Florent, je crois que c'est le cours Florent, mais en tout cas dans une des meilleures élèves qui a en plus obtenu, je crois, la bourse, qui est très rare. En général, au cours Florent, très peu la bourse, et elle l'a obtenue, et a priori elle est bien lancée dans la carrière, donc c'est chouette de voir que nos petites abeilles poursuivent et arrivent à une carrière de comédien.
Donc c'est un enseignement de qualité, mais qui brutalement prend une pause en mars 2020, donc comme la totalité des salles de spectacle qui ont fermé leurs portes en raison du Covid. Comment avez-vous vécu cette situation au théâtre de la Ruche ?
Bah, c'est dur, hein, quand nous, on vit de la rencontre avec le public, automatiquement, ça nous bloque. Le premier confinement nous a vraiment bloqués. On a quand même essayé de rebondir, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté les cours, on a continué, on a fait la visioconférence. C'était pas évident, c'était pas facile pour les profs, pas facile pour les élèves, pas facile pour les parents, parce que là aussi, il fallait que les parents mettent leurs enfants devant une caméra, donc pas évident. Mais tout le monde a quand même été content parce qu'on maintenait l'activité. Ça s'est pas arrêté, c'était des petites bouffées de respiration du mois de mars au mois de mai dernier. Okay. On était aussi arrivé à un moment de l'année où les groupes étaient bien constitués, donc c'était plus facile de faire la visioconférence, même si ce n'était pas jamais l'idéal. Mais on s'est réinventé. Monsieur Macron nous demande de nous réinventer, mais c'est ce qu'on fait tout le temps dans la culture. Et là, on a fait plus de travail sur table du texte, qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est tout le groupe réuni. Donc ça, c'était chouette. L'activité théâtrale en elle-même, bah évidemment, on n'a rien fait. Henri Mariel a écrit 3 pièces, voilà. Donc ce qu'on est en train de monter actuellement. Le deuxième, on a repris quand même un petit peu au mois de septembre-octobre. On s'est dit, bon, c'est bon. Et bam, octobre, fini de nouveau, on referme. Là, pour les ateliers, c'est plus compliqué parce que les groupes n'étaient pas formés, mais on essaye quand même, visioconférence, on essaye. Et c'est plus compliqué quand même cette année. Et si on devait ne pas rouvrir encore en septembre ou ne pas pouvoir accueillir des groupes, là, ça serait compliqué, ça deviendrait très compliqué pour nous. Mais sinon, au niveau de la création, parce que c'est tout ce qu'on nous permet de faire, c'est de créer, de faire travailler les professionnels. On est sur, là, actuellement, les comédiens sont à Donge, à l'espace Renaissance, à travailler sur une nouvelle pièce qui s'appelle Vertige de l'amour. Des personnages déguisés, masqués, enfin pas déguisés, c'est costumés, masqués, qui sont sortis d'ailleurs samedi dans les rues de Nantes, parce que vu que le public ne vient plus dans les théâtres, les personnages sont sortis du théâtre pour aller à la rencontre des spectateurs. Et ça, c'était un beau moment de rencontre de nouveau avec les gens.
Donc c'était samedi 27 mars.
C'est ça.
Et pour le coup, ces comédiens professionnels, comment ils ont vécu cette période ? Est-ce que ça a été pour eux fertile dans leur création ou justement plus difficile pour eux ?
Alors, pour Henri Mariel, le premier confinement était très fertile parce qu'il a écrit 3 pièces. Hein, donc ça, pour lui, il n'y a pas de problème. Pour les comédiens, ça a été compliqué parce que ne plus pouvoir jouer, hein, c'était, pour le confinement a vraiment été plus compliqué. Pardon. Le deuxième, bah, ils avaient le droit de répéter. Hein, donc on a répété à fond. Donc au moins, ils avaient une activité. Hein. C'est pas là, ça va mieux. Enfin, ça va mieux. Au moins, le travail de création était là. C'est le fait de ne pas avoir de public et ne pouvoir inviter que les programmateurs. Alors déjà, quand les programmateurs viennent, c'est super, on est content, mais on aimerait avoir aussi du public, parce que 3, 4, 10 programmateurs dans une salle de 400 places, c'est ridicule. On n'a pas la même force pour taper dans les mains, c'est pas le même retour. Donc c'est dur, mais on se dit tous, on va sortir de là, on va s'en sortir. Mais c'est dur. Et nos perspectives, parce qu'on aimerait avoir des perspectives pour cet été, on ne sait même pas si elles vont pouvoir se faire. Et là, ça devient compliqué. Ça devient difficile moralement.
Merci Anne. Je vous propose une troisième lecture.
Le chemin des escargots, Benoît Chetaille, troisième lauréat. Nous avions visité, rue Gilbert Bauduse, une petite maison aux 2 étages étroits. 2 jours plus tard, nous avions été choisis pour en être les premiers locataires. Elle était depuis longtemps inhabitée. Chaque pièce était imprégnée des senteurs de la courette arborée. Je me souviens du laurier, des framboisiers sauvages, et de cet arbre inconnu dont les branches couvraient la moitié du terrain. Je garde en mémoire l'éclat de son fleurissement ivoirin, lorsque le printemps connaissait ses sommets d'exubérance. C'était une rue close par des barrières. À ses 2 extrémités, l'ouest, à côté du boulevard Orion, et à l'est, à l'intersection avec la rue de la Lombarderie, près du boulevard Michelet. Une vieille bâtisse accueillait le visiteur de ce côté. C'était celle que le chanoine Bauduse avait fait construire, 1 siècle et demi plus tôt, pour accueillir des orphelins. La façade ancienne ne manquait pas de charme pour qui savait voir au-delà de son crépi, particulièrement lors des crépuscules lumineux. De la fenêtre de ma chambre, je voyais comment le soleil couchant la rehaussait d'un éclat nostalgique. C'était un quartier paisible. Nous en connaissions chaque avenue, impasse et ruelle. Le périple que tu préférais était tout en courbe et en dénivelé. Il nous menait de notre petite maison jusqu'au bord de l'Erdre. C'était toujours la même course, qu'à la fin tu savais par cœur. Je ne voyais que ton casque Rubicon filant par les rues qui s'égrenaient et qui devinrent synonymes de nos dimanches. Soubzemain, Cochard Pollen et son étonnante voisine, la rue Ameline, recherchée pour sa vue surprenante sur les lointains clochers de Saint-Nicolas, Saint-Clément et Saint-Pierre et Saint-Paul. Ensuite, les trottoirs devenaient étroits et nous cheminions côte à côte, observant le manoir du Mont-Goguet et le pilier de son portail, surmonté d'un imposant vase aux formes antiques. C'était enfin la ruée vers l'île de Versailles, connue et courue, d'où me reste le son d'une chute d'eau, de tes pas sur le pont de bois couvrant le marais et de tes rires lorsque tu me regardais du haut de la colline boisée. Pour que la promenade fût complète, il ne fallait pas que nous oublions notre chemin préféré. Nous entrions alors dans le quartier Barbin, zébré de voies éponymes. La rue Barbin, d'abord, perpendiculaire à l'Erdre, puis Fontaine de Barbin, sous le pont du boulevard Courbet. Après quelques mètres, nous tournions à gauche, dans la ruelle des Quarts de Barbin. C'était un vrai passage secret, le seul chemin subsistant de ce qui était, il y a 100 ans, une colline verte où la brise séchait le linge des lavandières. Le chemin débutait à côté d'un puits préservé. En quelques pas, nous atteignions le plus beau de notre promenade. C'était un sentier ancestral, au sol de terre mêlé de vieux pavés, couronné de parterres fleuris et de murets aux teintes grises, adoucis par l'incarnat des camélias. Nous l'appelions le chemin des escargots, car nous en trouvions à chaque printemps. Tu m'en confiais un, et je te donnais la plus belle des fleurs de camélia ramassées parmi les herbes. Jamais nous n'avions croisé personne dans cette voie méconnue, et jamais nous ne voulions en voir, car c'était là notre jardin. Puis, nous revenions chez nous, et tu t'endormais, au coin de mon épaule, les pétales roses bonbons entre tes doigts, et l'escargot voulant s'échapper des miens, tandis que je traînais ta trottinette derrière moi. La place Saint-Félix était vide, et le boulevard Michelet bien trop long. Les fins de promenade sont toujours tristes au soleil couchant. Depuis que la rue Bauduse n'est plus dans nos vies, je ne suis plus jamais revenu dans le chemin des escargots, ni dans les rues de nos promenades. Je n'y reviendrai plus, car le temps qui passe est d'autant plus cruel que les hommes ont pour coutume de détruire eux-mêmes ce qui fait le charme de leur quotidien. J'ai peur qu'un jour tout change et me renvoie le reflet de ce que nous ne sommes plus.
C'était Le chemin des escargots de Benoît Chétaille. Nous sommes de retour dans Moments d'Histoire en compagnie d'Anne Groisard, chargée de production pour la compagnie du théâtre de l'Entracte et de la Ruche à Nantes.
Ça fait quand même un an que tout est arrêté, un an qu'on nous prive d'un élément vital de notre société. Sur vos réseaux, on peut lire une citation d'Edgar Morin : « À force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. »
Complètement. Parce que la culture, alors, ça passe après, évidemment, le fait de manger, hein, il n'y a pas de problème. Ça passe après le fait de se loger, OK, de se vêtir, OK. Mais une fois que ces trois besoins sont satisfaits, je pense que la culture est juste derrière. Et on l'a vu, pendant le confinement, les gens ont écouté de la musique, ont regardé des films, des pièces de théâtre aussi. Beaucoup de pièces de théâtre ont été diffusées à la télévision, sur la 5, par exemple. Je pense à elle, mais il y en a eu d'autres. Donc, on n'a pas pu se passer de la culture pendant le confinement. Donc, nous arrêter brutalement, on a trouvé très injuste de la part du gouvernement cet arrêt au mois de novembre, enfin cette non-réouverture au mois de décembre. On pense sincèrement qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit, bon, on va pas rouvrir les théâtres. Oui, mais nous, déjà, on était fermés depuis 2 mois, donc on ne contribuait pas à la propagation du virus. Et, a priori, toutes les études semblent montrer que ce n'est pas chez nous que le virus se propage, en tout cas le plus. Donc, c'est long, et deux, c'est injuste pour nous. Voilà, c'est compliqué. On n'est pas très, très content quand même.
Mais oui, vous n'êtes pas content, et c'est pour ça que ça fait plusieurs semaines que l'opposition prend forme. Les acteurs culturels investissent des théâtres. À ce jour, une centaine de lieux sont occupés. À Nantes, l'opéra Grelin est en résistance. Vous vous êtes rendu sur place. Comment en est l'état d'esprit ?
Alors moi, je n'occupe pas Grelin. On est allé justement samedi dernier, nos personnages sont allés jusqu'à Grelin pour dire on est dans ce mouvement, on est dans le soutien. On n'est physiquement pas, enfin pas en tout cas moi, on a une de nos comédiennes qui est vraiment une personne de l'équipe aussi. Donc deux personnes de l'équipe qui y vont régulièrement. À ce qu'elles me disent, le moral est bon. Il résiste, mais ça va commencer à être long parce que le gouvernement ne répond à rien ou répond à la négative à tout ce qui est demandé. Donc, je sais pas où on va. Je sais pas où on va parce qu'il y a beaucoup d'insatisfaction, c'est un pléonasme, on pourrait dire beaucoup plus. Et je pense que eux espèrent qu'il y ait les occupants en tout cas. Et moi, je les souhaiterais aussi qu'il y ait une convergence des mouvements parce que c'est pas simplement les artistes qui sont concernés, les intermittents, c'est tous les travailleurs. Tous les chômeurs, la réforme de chômage qui arrive est brutale. Brutale, violente. Autant il va y avoir beaucoup d'artistes sur le carreau, mais pas que les artistes. Les artistes, c'est pas grand. Enfin, il y a du monde dans le milieu artistique, mais dans le chômage, il y a qu'une petite minorité de gens de la culture. Donc, tous ces gens-là qui vont se retrouver sur le marché du chômage à cause de cette nouvelle réforme, ça va faire beaucoup de mal, mais à tout le monde. Des gens qui ne travaillent pas, c'est une activité économique en berne.
Bien sûr. Mais, j'aime pas faire des comparaisons, mais les pays frontaliers comme l'Espagne, l'Italie ou la Belgique ont fait un geste modéré envers le secteur culturel, en laissant ouvert certains lieux, alors que la situation sanitaire était beaucoup plus catastrophique qu'en France. Comment expliques-tu que l'on sacrifie la culture en France ?
Alors, ce n'est pas aussi simple hein, en Italie et en Espagne non plus, hein, en avoir parlé. En Espagne, tous ne sont pas ouverts. Je ne suis pas spécialiste, hein, donc j'ai juste dire ce que je sais. Il y a aussi un problème en Espagne, c'est que le gouvernement n'a plus assez d'argent pour payer aussi le chômage partiel à tout le monde. C'est une réalité économique, donc le gouvernement est obligé de lâcher du lest. Hein. Après, je crois que c'est surtout les structures publiques qui ont été plus ouvertes. Hein, donc, ce n'est pas tout le milieu de la culture qui est ouvert en Espagne, de ce que j'ai entendu. Hein. L'Italie, de ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'ils ont rouvert des théâtres, mais avec des jauges tellement ridicules que ça ne sert à rien. Nous, si demain, on nous autorise à rouvrir avec la moitié de notre jauge, à la ruche, on a 50 places. Hein. 50 places, donc 49 exactement. 25 personnes, c'est pas rentable. Hein. Donc là, actuellement, et c'est bête à dire, il est mieux que l'on soit fermé, que l'État ne nous autorise pas à ouvrir parce qu'il nous donne des aides. Si demain, ils nous disent « Ok, c'est bon, vous rouvrez, mais à 50% de votre jauge, voire moins », nous, on prend le bouillon et beaucoup de théâtre. Hein. Et là, il y a péril en la demeure. Hein.
Et est-ce que vous avez des solutions à nous proposer pour redémarrer l'activité ? Quand je dis solutions, des idées, des...
Bah, déjà, c'est pas moi qui ai ces idées, mais les artistes en parlent. C'est rouvrir les théâtres où il y a des systèmes de ventilation. Il y a vraiment des choses qui sont en place avec des mesures barrières. On accueille des programmateurs pour des séances, donc c'est peut-être que quelques personnes, mais il y a une circulation du virus qui se fait. Or, finalement, personne n'est malade. On n'a pas encore une seule personne de malade à la ruche. Pourtant, on fait tourner, on accueille d'autres artistes pour des résidences, on accueille quand même des gens, on continue l'activité à moindre, voilà, à vitesse réduite. Mais non, c'est déjà nous permettre de retravailler. Enfin, c'est compliqué, hein, parce que le virus est encore plus virulent a priori. Moi, je ne suis personne pour dire quelles sont les solutions. Mais fermer brutalement en décembre, comme ça, les structures culturelles, ça n'a pas été bien fait. Il faut aussi se tourner vers le secteur culturel. Et justement, les occupations de théâtre sont là pour dire au gouvernement, parlez avec nous. Et les gouvernements refusent.
Et quel avenir on peut donner au secteur culturel français ?
Actuellement, l'avenir est très noir. L'avenir est très noir parce que si... Alors, il y a ces questions de jauge. S'il y a vraiment beaucoup de jauge sur les petits théâtres comme les nôtres, il y a péril dans la demeure pour nous. Donc, si l'année blanche n'est pas renouvelée, beaucoup d'intermittents ne vont pas avoir leurs heures, donc n'auront plus leur statut. Ils demanderont peut-être le RSA. Hein. Sauf qu'au bout d'un moment, les départements qui donnent l'argent pour le RSA ne vont plus avoir assez d'argent vu que l'État leur donne de moins en moins. Et puis, il y a tous les spectacles actuellement concret, mais ces spectacles ils viennent en bout de course parce que en septembre, si on autorise à rouvrir les théâtres, ça va d'abord, les spectacles ont été annulés en 2020, qu'il va falloir reprogrammer, donc on risque d'être dans une projection 2022-2023. Est-ce que les compagnies vont pouvoir résister? C'est pas dit. Est-ce que les spectacles donc, vont pouvoir tourner ce qu'on crée actuellement? Est-ce qu'ils vont pouvoir tourner? C'est pas dit. Et surtout, tous ces gens qui vont se casser la figure dans le secteur culturel, ça une diversité culturelle en France qui ne va plus exister. Et ça, c'est regrettable. Parce que c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Il est en train de tuer la diversité culturelle en France. On ne peut pas empêcher la culture. Mais la diversité culturelle, ce qui fait la richesse de la France, ne sera plus là.
Eh bien, ce sont des beaux mots. Je vous propose un nouveau texte.
L'Erdre au clair de nuit, de Jérémy Camus, deuxième lauréat. Je les ai bien connues, ces rues. Elles qui m'ont offert leurs pavés, ces soirs tristes où je croyais manquer de compagnie. Une cigarette mal roulée s'en venait me draguer les lèvres tandis que je laissais claquer derrière moi la porte de l'immeuble. En prélude à mon épopée, je remontais le quai Henri Barbus. C'était l'heure où les péniches s'endormaient en se laissant bercer par le lent remous de l'herbe. Les amarres, qui les accrochaient à la terre ferme, continuaient leur va-et-vient, si bien qu'on croyait les entendre ronfler à chaque grincement de corde. De grosses gouttes de lumière orange pleuvaient des réverbères à intervalles réguliers, jusqu'au bout du quai. C'était d'un coucher de soleil, l'horizon en moins. J'arrivais alors sur la place Valdec-Rousseau, une de ces places sans trop d'âme flanquées d'une poignée d'arbres qui se demandaient continuellement pourquoi on les avait plantés là. Je n'ai jamais su quoi leur répondre. D'ici, on était écrasé par une imposante silhouette grise. C'était le commissariat, sale et rouillé. J'aimais malgré tout rester devant à l'observer, parce qu'il me faisait l'effet d'un ogre de béton allongé là, sur le bord de la rivière. J'attendais toujours une dizaine de minutes, ou davantage, pour entendre le chant bleu des sirènes qu'il crachait dans les boulevards alentours. Puis je continuais ma route sur le pont de la Motte Rouge. Il y a quelques années déjà, avant qu'il ne soit repeint, on pouvait lire sur un de ses flancs d'acier un ver d'Aragon, tagué à la bombe noire. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Moi, je l'avais toujours connu comme ça, ce pont, avec ses mots tracés à la hâte qui suffisaient à lui donner vie. Ça semblait être sa manière à lui de refuser d'être un décor. C'était un pont pensant. Mais depuis, de grands coups de pinceau l'ont réduit au silence, et j'attends le jour où on reviendra le barbouiller d'un peu de poésie pour lui rendre son âme. Au bout, je prenais à gauche, en suivant la ligne de tramway. Les maisons qui bordent le quai à cet endroit se tenaient toutes de travers. Chacune d'elles s'adossait sur sa voisine, sans doute par peur de dégringoler dans le bas de la rue. Elles ressemblaient à ces vieux qu'on voit sur les bancs publics, qui sont toujours assis très près les uns des autres, comme pour s'empêcher de vaciller. D'ailleurs, à force de se pencher, les façades de ces maisons étaient creusées de fissures qu'on aurait pris pour des rides. Et de l'autre côté du quai, c'était l'Erdre. Je m'en approchais en descendant le petit escalier de pierre qui aboutit sur le pavé du canal, à l'endroit où la rivière s'ouvre en deux pour embrasser l'île de Versailles. Des péniches s'endormaient ici aussi. J'enviais leur patience, cette patience des choses qui vivent sur l'eau. Une nuit que j'étais là, un homme est venu s'asseoir à côté de moi et m'a dit « bonsoir ». J'ai levé les yeux vers lui et me suis aperçu qu'il s'agissait d'un moine vêtu d'une grande robe de toile épaisse et chaussé de sandales en cuir. Il m'a alors confié qu'il était heureux de pouvoir se reposer sur ce banc. On a échangé longuement. L'imprévu de cette rencontre nous avait rendus bavards. J'ai appris qu'il se rendait en pèlerinage quelque part, dans une abbaye dont j'ai oublié le nom. Puis la conversation s'est tarie, et j'ai repris mon chemin, transfiguré par la simplicité de cet échange. Plus loin, dans la courbe du canal, les péniches laissaient place à des barques dont la moitié prenait l'eau. Elles pendaient au bout de vieux morceaux de corde devenus verdâtres. Et juste en face, sur la berge de l'île, on apercevait un immense saule pleureur qui plongeait magnifiquement son chagrin dans les eaux de la rivière. Chaque nuit, je ne pouvais m'empêcher de contempler la beauté magique de ce tableau. Immobile, l'âme éclairée par l'émotion, j'étais un réverbère de plus le long du quai de Versailles. En se rapprochant de Saint-Mihiel, la ville ressemblait un peu moins à la campagne, même si les enseignes des bistrots disaient le contraire. Leurs terrasses étaient nues et semblaient bien seules. Moi, je ne l'étais plus. À hauteur du pont, je me laissais aller à de nouvelles perspectives. Les lignes des bâtiments fuyaient en direction de la cathédrale, dont je distinguais la flèche qui tendait sa main vers l'infini, comme pour montrer qu'elle connaissait la bonne réponse. Au-dessus d'elle, la lune prenait congé. Les étoiles clignaient des yeux, signe de fatigue, et le ciel prenait des teintes roses. Le soleil avait beau se lever, il n'y avait pourtant pas de raison que la nuit s'achève.
Moment d'histoire.
Nous sommes de retour dans Moment d'histoire en compagnie d'Anne Groisard. Avant de terminer l'émission, j'aimerais faire une ouverture. Donc on va revenir sur votre mémoire de recherche que vous avez réalisée quand vous étiez étudiante en histoire. Il s'intitule « La politique culturelle du Québec en 1960 à 1985 ». Pourquoi avoir choisi de vous intéresser au Québec et pourquoi cette borne ?
Alors, le Québec, c'est le Canada, et à l'époque, j'étais donc en licence d'histoire à Nantes. Et alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je l'espère, il y avait un centre d'histoire d'études canadiennes rattaché à l'Université d'histoire de Nantes. Donc, ce centre de recherche aimait envoyer au moins un étudiant par an au Québec, et c'est moi qui ai pu y aller. Il n'y avait pas beaucoup de candidats cette année-là, donc j'y suis allée. Donc au Québec, et il fallait choisir évidemment un sujet de mémoire, et comme j'étais très attachée à la culture, je suis arrivée à l'Université de Montréal avec un nouveau directeur, donc M. Durocher, québécois, à l'Université de Montréal, à Montréal, et en y discutant, on est tombé sur ce sujet d'étudier la politique culturelle du Québec de 1960 à 1985. Voilà, c'était très très intéressant et ça m'a permis de comparer deux systèmes de culturels entre le Canada et la, enfin, Québec et la France.
Et quelle finalité vous en tirez? Quelle est la différence culturelle française?
Alors, ce qui est très amusant, parce que le Québec, c'est vraiment un îlot dans le Canada. 1960, c'est une année importante, car M. Lapalme est nommé alors, ministre des Affaires culturelles. Et il va s'appuyer un peu sur ce que André Malraux... Enfin, c'est un peu plus tard. C'est possible que je me trompe dans le date, parce que ça fait quand même alors, 25 ans que j'ai écrit mon mémoire. Et ça fait très longtemps et je ne l'ai pas révisé avant de venir. Donc, en tout cas, il y a cette homme très important, Monsieur Lapalme, qui va vraiment regarder ce qui se fait en France et qui va un petit peu, comme en France, dire que la culture c'est important et que le gouvernement doit financer la culture. Ce qui est complètement en opposition avec ce qui se passe dans le reste du Canada et aux États-Unis, où c'est plutôt des fondations, du mécénat qui va soutenir la culture. On n'est vraiment pas positif. Donc le Québec essaye vraiment de se rapprocher de la France. C'était très amusant en étudiant, en creusant le sujet de la culture. La question aussi sous-jacente, c'était est-ce que la culture québécoise est différente de la culture canadienne? Parce que voilà, même si le Québec est un îlot dans le Canada, c'est quand même une province du Canada. Et par moments, je pouvais voir quand même que le gouvernement québécois forçait le trait pour dire nous sommes vraiment différents du Canada. La preuve, c'est ça. Bon, des fois, c'était un peu forcé. Donc c'était assez amusant de voir ça. Mais en tout cas, la culture a une place très importante au Québec. Ça, j'ai pu m'en apercevoir quand j'y habitais.
Eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Et on souhaite tout l'optimisme pour le théâtre de la Ruche et le secteur culturel en général.
Il en faut beaucoup. Merci.
C'est déjà la fin de l'émission. Merci aux lecteurs Lucille et Florent. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site de Prune ou sur la page Facebook Moment d'Histoire-Prune92FM. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. On se retrouve le mois suivant pour une nouvelle immersion au cœur de l'histoire. On se quitte avec la lecture de la lauréate du concours d'écriture, Harmonie Coiffard. Bon après-midi.
Mascaron, de Harmonie Coiffard. Première lauréate. Si vous êtes de nature sceptique, peut-être vaut-il mieux ne pas aller plus loin. Cette étrange histoire me fut contée par ma grand-mère, qui la tenait de la sœur de l'arrière-arrière-grand-oncle de la voisine de son amant. Oui, ma grand-mère avait un amant. Ne la jugez pas. C'était une dame charmante qui avait le cœur sur la main, qui la tenait elle-même d'une femme qui servait un homme fameux dans une très belle demeure du centre-ville de Nantes. Cette divine servante en bois d'ébène s'appelait Azinza, celle qui découvre l'âme des choses et des gens. Son histoire, la voici. Monsieur K, l'homme fameux, arpentait chaque matin la rue du Milieu, artère principale de l'île Feydeau. Il songeait, tout en prenant garde à la chaussée pavée quelque peu périlleuse pour un homme de 82 ans, à la lettre silencieuse S qui venait de disparaître du mot « île ». Cette évolution linguistique ne lui plaisait guère. Il aimait l'ancienne façon d'écrire. D'ailleurs, il aimait l'ancienne façon de tout. Il appréciait cette rue, sa rue. De bout en bout, elle traversait l'île et était bordée de beaux immeubles. Il ne s'y trompait donc pas lorsqu'en promenade, il les admirait, satisfait d'avoir acheté un bien si remarquable. Il se plaisait surtout à contempler le mascaron négroïde qui ornait la porte de son riche bâtiment. Là, sous le numéro 13, figé dans la pierre, immobile, exposé aux vues de tous, trônait ce visage sculpté dans la pierre ou la marque du commerce qui fit sa fortune. Celle de la ville aussi, d'ailleurs. Ce jour-là, il fut distrait de son rituel d'observation. Une étrange vision s'imposa à lui. Sur le visage froid et résigné de ce témoin muet apparaissait un sourire. Un frisson le parcourut. Il ferma les yeux, afin d'annuler cette hallucination, puis les rouvrit et s'indigna. « Te moques-tu ? Enlève instamment ce sourire de tes lèvres. C'est moi qui t'ai commandé au tailleur de pierre. Tu dois avoir la tête que je souhaite. » Rien n'y fit. Le visage ricanait à présent. Il porta une main à sa poitrine, l'autre à ses yeux, et fléchit jusque sur le pavé. Azinza eut un pressentiment et jaillit par la porte arquée, comme un taureau entre dans l'arène. « Maître !» lui dit-elle en se jetant à ses pieds. « Regarde !» balbutia-t-il épouvanté. Azinza fixa la tête de pierre. Elle semblait comprendre. Du masque sortit une lourde fumée noire sur le mur blanc. Elle fut si dense qu'elle enveloppa M. K tout entier. « Ouvrez les yeux, maître. Il vous faut écouter les voix venues d'ailleurs. La fumée se dissipa et soudain, une main sale le remit violemment debout et s'inséra brutalement dans sa bouche. Un homme scrutait ses gencives comme un paysan celle de ses bêtes. Par réflexe, il referma la mâchoire d'un coup sec. L'homme hurla et le fit voler au sol. Il releva la tête et aperçut un bâtiment rose aux volets verts. L'air était chaud. Au loin, la voix d'Azinza comme portée par le vent. Je reconnais l'odeur de la terre de mes ancêtres. C'est l'île de Gorée. Il tenta de se remettre dignement sur ses pieds lorsqu'un éclair brûla la peau de son dos et l'envoya sur un navire par une ouverture qui donnait sur la mer. Au-dessus de cette porte, effacée par le temps, les mots « voyage sans retour ». On entendit un capitaine hurler, des marins crier, le vent souffler, le pont craquer et le navire tanguer de tous côtés. Son cœur se souleva. Il sentit la fièvre se ruer sur lui tel un tigre affamé, porta la main à son front pour en essuyer la sueur et fut pris d'effroi. Sa main, son bras, sa peau, son corps tout entier était noir. Il était noir. Autour de lui, des corps gisaient, dessus, dessous, à droite, à gauche, partout. Le bruit des fers qui s'entrechoquaient lui envahit la tête, troubla son esprit. L'horreur et la peur le clouèrent au sol, humide et puant. Une lourde vague passa au-dessus de lui et engloutit l'équipage. Il crut reconnaître la mort et ressentit un infini soulagement. Ne plus voir, ne plus entendre, ne plus souffrir. Oh oui, la liberté. Une lueur lui fit entrouvrir les yeux. Il se vit sur une plage de sable blanc, immaculée. Au loin, Azinza voguait vers le large sur un radeau de fortune. Elle lui sourit et fit un signe de la main. Derrière lui, il reconnut le 13 de la rue du Milieu. Mais il y avait une nouvelle plaque, rue Kervégan. Sur un banc de sable, l'édifice se mit à pencher, humble face à son passé infâme, comme un homme qui accepte et qui se repent.
Passionnés, étudiants, professeurs, journalistes ou des invités de tout horizon, Nicolas Boissineau les reçoit pour une immersion au cœur de l'histoire sur Prune 92 FM. Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps.